Ceux qui assistent au cours avec moi, si vous voulez vous avancer devant les colonnes, j'apprécierais. Alors, nous sommes dans la cinquième rencontre à peu près du cours « En esprit et en vérité ». Nous allons terminer de couvrir la leçon 3. Pour ceux qui écouteraient l'enregistrement audio. Et pour ceux qui se joignent à nous ce matin, j'ai modifié le document de la leçon 3. Donc, même si vous l'aviez pris la semaine dernière, je suis désolé pour le gaspillage de papier que ça comporte, là. Mais j'ai modifié la leçon 3, j'ai complété dans le fond ma leçon 3. Alors, si vous prenez seulement le document papier de la semaine dernière, il va vous manquer quelques feuilles. Mais si vous reprenez une copie ce matin, vous allez avoir la version complète. Autrement, vous pouvez aller la chercher sur le site Internet, au lien qu'on vous envoie avec le courriel que vous recevez chaque semaine. Et la leçon que vous allez trouver sur le site Internet en format PDF et la version complète de la leçon 3. Si tout le monde m'a suivi. Tu m'as suivi, Simon? C'est ta première question ce matin. Il y a la feuille de présence que je vous demande de signer comme à chaque semaine. Bonne Saint-Valentin. J'ai vu quelques couples hier soir quand même. Hein, il y avait des couples qui avaient un souper. C'était agréable. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Père éternel, discuter ensemble de l'adoration. C'est parler de toi, Seigneur. C'est un sujet qui est saint. C'est un sujet qui me dépasse, Seigneur, qui me dépasse dans ma compréhension, mais aussi dans mon expérience. Vivre une joie entière, une paix complète avec toi, Seigneur, ça relève de ta grâce. Ça demande que tu nous touches par ta grâce, que tu nous réconfortes, que tu nous rassures de ton accueil, de ton amour pour nous. Alors ce matin, Seigneur, nous venons pour comprendre un peu plus ce que c'est être un adorateur et grandir, Seigneur, dans notre adoration. On te demande, Père, de parler à nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence. Et Seigneur Jésus, alors qu'on va continuer à voir à quel point ta personne est centrale dans l'adoration du Nouveau Testament, je demande d'ouvrir nos cœurs pour que nous soyons encore une fois en amour avec toi, Seigneur, et avec ce que tu as fait pour nous, ton amour pour nous, ta grâce. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous demande de vous asseoir devant les colonnes autant que possible. Vous pouvez reprendre une copie des notes. C'est la version complète de la leçon 3. Et nous devrions compléter, j'espère, ce matin, la portion sur Jésus et le nouveau temple. Je vais juste répéter comme à chaque fois, étant donné que c'est enregistré, je vous demanderai de poser des questions autant que vous voulez, mais brèves, si c'est possible, parce que je dois les répéter. Alors, si elles sont trop longues, on perd le fil et ça laisse des silences, puis les auditeurs ne pourront pas suivre ce qu'on est en train de faire. Je vous encourage à lire les notes. Ce matin, il y a des petites portions de mes notes que je vais carrément sauter. Ce n'est pas possible de couvrir toute la matière à l'intérieur de deux leçons comme ça. C'est un sujet qui est, je dirais que jusqu'à présent, c'est ce qu'on a vu de plus complexe, d'accord? Parce que des fois, vous pouvez avoir l'impression que je suis en train de lire entre les lignes puis de voir plus que ce qu'il y a dans le texte. Et je pense que la semaine dernière, on s'est assez bien débrouillé pour que vous puissiez voir, là, c'est ce que je percevais de vos commentaires, vous puissiez voir à quel point Jésus est vraiment le nouveau temple. Mais c'est un sujet qui est plus délicat, qui demande un peu plus de force au niveau de l'interprétation du texte pour vraiment le saisir. Et ça peut arriver que je ne le communique pas parfaitement, définitivement. Donc, je vous encourage à lire les notes, d'accord? Et à les relire. Si vous terminez, puis vous dites, « OK, Jésus, c'est le nouveau temple, c'est bon. » Puis là, la prochaine fois que vous pensez à cette idée-là, vous dites, il me semble que c'est juste l'Église. D'accord? Il y a des idées, il y a des éléments de théologie, des concepts qui demande d'être relu pour qu'il puisse s'ancrer en nous et qu'ensuite, lorsqu'on va relire les Écritures, on puisse voir les liens que l'auteur est en train de faire. Alors, si c'est le cas, retournez aux notes, allez les relire, d'accord? On a vu ensemble quatre grands thèmes dans l'Ancien Testament. Je les répète parce que vous devez les apprendre d'ici la fin du cours. Quatre grands thèmes. Avant de parler du langage de l'adoration, quels étaient les quatre grands thèmes? Révélation, rédemption qui veut dire rachat, d'accord? Avant la vocation, vous avez raison, mais juste avant la vocation, l'alliance, parfait, et la vocation, d'accord? Alors, le Dieu qui se révèle, c'est nécessaire qu'il se révèle pour que nous puissions l'adorer. C'est le Dieu qui rachète, non seulement il se révèle, mais il se rachète à un peuple. Ensuite de ça, comment est-ce qu'il détermine le type de relation qu'il va avoir avec son peuple dans l'Ancien Testament? C'est en traitant une alliance avec son peuple. Et dans cette alliance, il y a les termes et conditions de la relation de la part des deux parties, de la part de Dieu et de la part des hommes. Et enfin, à quoi ce peuple racheté est-il appelé? Quel style de vie? Quel genre de vie? Sa vocation? Il a été mis à part, sanctifié pour vivre une vie différente. Quatre thèmes qui vont nous suivre dans le Nouveau Testament. Et je les répète parce qu'on doit voir comment ils se transforment dans le Nouveau Testament, comment ils se répètent, quelle forme ils vont prendre. D'accord? Ensuite de ça, on avait parlé du langage de l'adoration. Évidemment, là, si vous lisez les notes, vous les avez, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle par cœur? Servir, adorer. Là, je parle du langage qui est employé dans l'Ancien Testament, à part des sacrifices, tout ça. Lorsqu'on parle d'adoration, il y a un langage qui porte un sens. Il y a l'idée de service, de rendre hommage qu'on associe avec un geste précis de prosternement ou de se prosterner. D'accord. Alors, l'hommage, en se prosternant particulièrement, c'est une manière d'exprimer notre soumission. L'adoration est associée étroitement avec le service dans l'Ancien Testament. Alors, simplement, aller adorer mon Dieu au temple, peut-être que ça peut convenir pour certains cultes païens, mais ça ne convient pas au Dieu de l'Ancien Testament, ça c'est clair. Il faut le servir par nos vies. Et enfin, le dernier, c'est qui était révérence et respect, où on avait abordé toute la question de ce Dieu que l'on craint. Puis on avait vu ensemble que dans l'Ancien Testament, contrairement au culte autour, l'idée d'être terrifié par Dieu est relativement rare. Celui qui méprise Dieu devrait être terrifié par Dieu. Ça, on est d'accord. Mais celui qui sert Dieu, ça sera pas, lorsqu'on parle de crainte, ça ne va pas être une terreur comme de craindre un Dieu méchant ou sadique. Au contraire, Suzy l'avait bien relevé, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui fait grâce, c'est un Dieu qui pardonne. Alors, comment est-ce qu'on va le craindre? Ça revenait encore une fois à un style de vie différent. On va le révérer par notre mode de vie, par notre genre, notre style de vie, nos comportements. D'accord? Je répète ces choses-là parce que vous allez voir, ça se traduit dans le Nouveau Testament. C'est présent dans le Nouveau Testament. La semaine dernière, on a commencé à regarder Matthieu. Et en fait, pour le sujet de Jésus et le Nouveau Temple, ce qu'on fait, c'est qu'on va rester dans Matthieu et dans Jean. D'accord? Parce que c'est les deux évangiles où c'est plus clair, dans Jean encore plus que dans Matthieu. Mais je pense que la semaine dernière, on a commencé à montrer assez clairement de quelle manière Jésus accomplit les fonctions que le temple accomplissait avant. D'accord? Je vais aller tout de suite à la page 5 de mes notes, rendre hommage à Jésus. Les feuilles de ce matin ne sont pas exactement les mêmes que celles de la semaine dernière parce que j'ai mis la suite de la leçon 3 dans une même leçon. Alors, si vous avez pris des feuilles la semaine dernière, vous devriez en reprendre cette semaine. Et puis, on va avoir gaspillé un peu de papier, malheureusement. Page 5, rendre hommage à Jésus. On vient de le dire dans le langage de l'adoration dans l'Ancien Testament, il y a toute cette idée de rendre hommage. Dans tout le Nouveau Testament, à part le livre de l'Apocalypse, le livre qui utilise le plus souvent l'expression proscunéenne, qui est celle de se prosterner, c'est l'Évangile de Matthieu. D'accord? À part l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, des gens qui vont se prosterner, c'est dans l'Évangile de Matthieu que ça se fait le plus souvent. Et 10 fois, c'est utilisé pour des gens qui viennent se prosterner devant Jésus. Maintenant, lorsqu'on a parlé de prosternement, on a dit que ce n'était pas nécessairement seulement de l'adoration. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que c'était une coutume. Et juste en regardant des films du Moyen-Orient, tout ça, on est capable de voir des gens qui spontanément vont se prosterner devant quelqu'un qu'ils respectent, devant un personnage important. Donc, ce n'est pas toujours un acte d'adoration. Mais en même temps, pour que ce soit utilisé aussi souvent par Matthieu à l'égard de Jésus, et dans certaines situations qu'on va voir, où là, ça ressemble de plus en plus à de l'adoration. Ça ressemble de plus en plus à un geste spontané d'adoration, comme on en trouve dans l'Ancien Testament parfois, où ils vont tout simplement tomber par terre puis se prosterner et se mettre à adorer Dieu, d'accord? Mais c'est pas le cas toujours. Alors, je vous les ai mis au bas de la page 5 et de la page suivante. Vous avez les 10 exemples. Je ne vais pas toutes les lire. Je voulais quand même juste vous montrer la nuance entre les deux. On le voit nous-mêmes, d'accord? Par exemple, dans Matthieu 2:2, avec les mages, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le terme qui est là, c'est « proskuneïne », d'accord? Donc, le langage de l'adoration. Ils l'ont traduit en français par « adorer », mais en réalité, c'est littéralement, c'est « se prosterner ». Selon vous, est-ce qu'on parle d'adoration ici ou de rendre hommage à un personnage important? Rendre hommage? C'est pas clair, clair? Mais de là à dire qu'ils s'en viennent adorer Dieu, ça serait poussé pas mal. D'accord? Ça serait fort. C'est ça. Ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience encore que c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est clair. Cependant, lorsque j'avais prêché sur ce passage-là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au début de l'Évangile de Matthieu, les premières personnes qui viennent rendre hommage au roi des Juifs, c'est qui? Ce sont des païens. Ce sont des mages païens qui viennent se prosterner devant le roi des Juifs. Et là, il y a un des thèmes importants de l'Évangile de Matthieu qui est annoncé. Oui?
Mais quand même, ils viennent de, je ne sais pas comment, de kilomètres de là, pour adorer un roi des Juifs. Ils doivent avoir une certaine impression que ce n'est pas juste un roi des Juifs. Ils doivent avoir une notion.
Oui, Annie pose la question. Le fait que ces gens-là ne sont pas partis de 3 kilomètres plus loin, mais ils ont fait un voyage extrêmement long pour venir se prosterner devant le roi des Juifs. Est-ce qu'il n'y avait pas plus que juste un être humain? C'est pas clair qu'eux autres pouvaient saisir plus, mais c'est clair qu'ils voyaient l'accomplissement d'un événement divin. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Ils l'ont lu dans les livres. Ils entrent en contact avec Dieu, ça c'est clair, dans un geste que Dieu pose. Est-ce que le petit enfant qui est devant eux, il commence à percevoir que c'est Emmanuel? Ça, c'est le commentaire de Matthieu qui nous dit que c'est Emmanuel. Est-ce que les mages ont compris que ça, c'était Emmanuel qui était là? C'est pas clair encore. La manière que moi, je le comprends, d'accord? La manière que je le comprends, c'est que Matthieu est en train de placer son thème tranquillement. Et ce qu'on va voir, puis là, juste en lisant les évangiles, vous l'avez vous-même remarqué, plus les disciples vont être en contact avec Jésus, avec ses actions, avec ses paroles, plus ils vont devenir troublés à dire, « Oh, mais il est plus grand que nature, ce personnage-là. C'est le Messie, mais c'est tout un Messie. » Et de plus en plus, leur attitude va devenir de l'adoration. D'accord? Donc, ça va aller en progressant, ça. Oui? Définitivement. Alors, on parle de l'étoile. C'est un événement surnaturel. Il n'y a aucun doute. Ces mages-là ont la conviction qu'ils voient Dieu agir, qu'ils voient Dieu faire quelque chose, intervenir dans l'histoire. Est-ce que les mages ont compris que le roi des Juifs, c'est Dieu incarné? Là, ça serait aller plus loin que le texte à ce moment-là, d'accord? Ça serait voir un petit peu plus. Mais Matthieu est en train de déposer ses thèmes. Il est en train de placer ses thèmes tranquillement, d'accord? Alors, un autre exemple. Bon, Hérode, évidemment, Hérode, je ne pense pas qu'il voulait aller adorer Dieu. Oui? Non, c'est ça. Madame Soulière a dit, on ne connaît pas leur bagage spirituel à ces mages-là. C'est clair que ces gens-là étaient assez érudits. D'accord? Je veux dire, moi, j'aurais lu le texte, puis j'aurais même pas su qu'il fallait que je me rende là. Mais eux avaient compris ça. C'est assez fantastique, là. Donc, c'était des gens érudits, c'était des gens qui étudiaient la loi, qui étudiaient les Écritures. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils avaient comme compréhension? à un certain moment donné, quand on interprète les Écritures, on doit tracer la ligne puis dire, ça c'est clair pour moi que c'était dans l'intention de l'auteur, là je commence à spéculer. Puis je trace la ligne. Il y a une ligne que je ne veux pas franchir. C'est-tu celle de cette... C'est-tu des nouvelles, tu as prié juste là? Oui, c'est des bonnes. Page 5. Oui, Denis. Absolument. OK. OK, je vais prendre ce que tu dis, Denis, puis peut-être c'est ça qui va vous réconcilier avec ce que je dis. Denis mentionne, Denis il dit, peu importe ce qui se passait dans l'esprit des mages, Dieu souverainement s'est arrangé pour qu'il y ait des mages qui partent de loin et qui viennent souligner la naissance de son fils. D'accord? C'est 100% vrai. Ça, c'est ce que je pense que Matthieu veut nous dire aussi. Matthieu veut nous dire, puis lorsque vous arrivez à la fin de l'évangile de Matthieu, vous dites, pensez ce que vous voulez de Jésus, là, mais c'est quelqu'un devant qui tu te prosternes. D'accord? Puis ça, c'est un des messages que Matthieu... Fait que Matthieu va nous faire grandir dans cette appréciation-là que tu te prosternes devant Jésus. Notre question à nous ce matin, OK, j'ai répondu en disant ça, là, mais notre question à nous, ça va être, est-ce qu'on doit adorer Jésus? Est-ce que Jésus est au cœur de l'adoration? D'accord? Ça va devenir important, par exemple, pour déterminer si adorer Jésus, c'est biblique ou si c'est une hérésie. D'accord? C'est important, là, parce que, je veux dire, il y a des sectes qui sont bâties là-dessus. Claude, il faut que j'avance avec mon texte. Vous avez des bonnes questions? Oui? Luc 24, 53.
Lors de l'ascension. Oui. Il est dit, pendant que les bénissaient, ils se séparèrent d'eux et furent enlevés au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils se retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient constamment dans le temple de moins de 100 jours. Dans notre Bible, c'est ça. Chez les témoins de Jéhovah, ça dit, il lui rendit hommage.
Oui. OK, je vais répéter ce que tu mentionnes. Ouais, je vais essayer de le répéter. Dans Luc, c'est quoi ta référence?
Luc 24, 52.
Alors, il est dit dans une traduction que les témoins de Jéhovah utilisent qu'ils ont rendu hommage à Jésus. Et dans notre traduction, ça va être marqué « adoré ». Il faudrait que j'aille le vérifier dans le grec. C'est probablement « proskunein » qui est là, qui veut dire qu'ils se sont prosternés. Et là, J'ai plein d'exemples dans l'Ancien Testament de gens qui se sont prosternés devant un homme. Parce que c'était la coutume à l'époque de le faire. Lorsque tu arrivais devant un roi, tu pouvais te prosterner. Et on a plein d'exemples où tu te prosternais devant Dieu. Et c'est là que j'en viens. Dans notre traduction au français, on doit déterminer, est-ce que c'est un prosternement qui va faire que... Admettons, un ange va dire à Pierre, « Non, lève-toi, là, commence pas à m'adorer. » Ou est-ce qu'il fait juste lui témoigner son respect? Et c'est le contexte qui va nous permettre de le déterminer. D'accord? C'est à force d'étudier l'auteur, de lire, par exemple, ce que vous pourriez faire dans Luc, ça serait avec une concordance, juste d'aller sortir tous ces textes-là. Avec une bonne concordance, maintenant, vous allez savoir si c'est proskunein qui est là ou non. Vous allez tous les regarder, puis là, vous allez dire, « Est-ce que c'est un thème dans Luc? » Est-ce que dans l'ensemble des utilisations, Luc est en train de nous dire quelque chose par rapport au prosternement? Moi, je crois que dans Matthieu, c'est clair, oui. C'est plus on avance, plus tu te prosternes pour les bonnes raisons devant Jésus. Pas juste parce qu'il multiplie les pains, parce qu'il est le Fils de Dieu. Plus on avance, plus ça va être ça. Il y avait une autre question, un autre commentaire. OK. Bonne question. C'est quoi la différence entre dire « j'adore Jésus et Dieu » OK. Oui. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non. Oui, c'est vrai que ce serait pour un autre cours. Mais Mais non, c'est important. C'est important parce que, par exemple, si j'étais un témoin de Jéhovah, je dirais, c'est clair, tu n'adores pas Jésus. Tu rends hommage à Jésus comme tu rends hommage à un ange. Maintenant, si dans les évangiles, on rend hommage à Jésus comme on rend hommage à Dieu, pas juste comme on rend hommage à un ange, ben là, ça veut dire que Jésus est Dieu. Et là, ça veut dire que mon adoration pour Dieu va être centrée souvent vers la personne de Jésus. Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que c'était pas mal ça le sens de ta question. Qu'est-ce que ça change? Dieu est un être beaucoup moins mystérieux depuis qu'il s'est incarné en Jésus. Dieu est beaucoup plus concret, compréhensible. C'était une chose de dire que Dieu nous aime. C'était une autre chose de voir Jésus dire à ses disciples, « Voulez-vous me laisser tranquille? Il y a des petits-enfants qui veulent que je les touche. » Là, ça devient plus concret, cette affaire-là. Moi, je suis capable de m'associer. Ça va même nous amener à nous dire, « Regarde ce qui est humain. » Non, c'est pas ça. C'est que chaque fois que nous, on prend des petits-enfants, on ressemble un petit peu au divin. C'est pas lui qui est humain, là. C'est nous qui ressemblons à Dieu quand on fait ça. Mais avant que Jésus le fasse, c'était comme le plus près de ça que tu avais eu, c'était une brise avec Élie, un petit courant d'air chaud, là, tu voyais la tendresse de Dieu. C'est un courant d'air chaud, là. Je veux dire, je peux être à la plage à Cuba là, encore. Là. Vous comprenez? Là, avec Jésus, ça commence à être concret. Et donc, c'est ça que ça va changer dans mon adoration. Puis évidemment, mais après ça, je me rends jusqu'à la croix. Fait qu'adorer Dieu le Père, puis adorer celui qui s'est fait crucifier pour moi, oh, là, ça commence à être solide. Fait que ça va être ça, la nuance. Mais évidemment, quand je pose la question, c'est parce que je pose la question pour des choses qui sont évidentes pour vous. On est dans une église évangélique baptiste. Vous croyez à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand je pose les questions, c'est pour voir ensemble où on prend ça dans le texte. D'accord? C'est une excellente question. Par exemple, je vous donne un exemple. Troisième avant-dernier point noir, là, ma page 6, là, la mère de Jean et Jacques. D'accord? Matthieu 20-20. Si vous êtes en haut de la page 6, Matthieu 20-20, mère de Jean et Jacques. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Moi, j'ai de la difficulté à croire qu'elle est en train d'adorer, là. Je pense qu'elle s'en vient demander une faveur, puis c'est la bonne chose à faire pour demander une faveur de te prosterner. D'accord? Vous voyez, c'est pas automatique. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours un cœur qui te pousse à poser un geste d'adoration. Oui?
Mm-hmm. Dans la révélation, ben, l'élément divin est dans la révélation. Quand l'élément divin est là, c'est vraiment l'adoration.
Je vais juste répéter ce que vous dites. Dans l'adoration, il y a la révélation, puis c'est lorsqu'il y a révélation qu'on est poussé à adorer. C'est ça? Oui, définitivement. Alors, c'est ça. Ça va devenir un thème important. Ça revient un peu à la question que tu posais tantôt, Bruno. Qu'est-ce que ça change? C'est que Dieu se révèle à travers Jésus comme il ne s'est jamais révélé avant. Et ça va me pousser à l'adoration. Maintenant, si je dis que je n'ai pas le droit d'adorer Jésus, j'ai juste le droit d'adorer Dieu parce que Jésus n'est pas Dieu. D'accord? Si je ne crois pas à la Trinité, non? Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire tout ce que je suis supposé toucher de Dieu, comprendre de Dieu, j'ai mal compris parce que ce n'était pas Dieu. C'est juste le Fils de Dieu. Quand j'ai l'impression de saisir Dieu à travers ce que Christ fait, non, c'était pas ça, là, parce que c'est pas Dieu. C'est juste le Fils de Dieu. Là, ça change énormément de choses. Et comme on vient de le mentionner, mais l'adoration, c'est une réponse à la révélation. Est-ce que Jésus me révèle vraiment Dieu le Fils, Dieu le Père à travers lui? C'est bon. Matthieu 14:33, si vous voulez regarder la deuxième référence au haut de la page 6. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Je pense que là, on a un acte d'adoration pur. D'accord? Exactement. Ils assistent à une révélation extraordinaire où là, boy, c'est pas juste le roi des Juifs, là, c'est celui qui commande les éléments. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes à terre. Ça finit là. Et là, c'est une réponse. C'est une réponse spontanée. Mais voyez-vous, on est toujours dans Matthieu. On est rendu dans Matthieu 14. On progresse. Les disciples progressent dans leur compréhension de qui est Jésus. Laissez-moi faire une application pour nous. Grandir comme adorateur, c'est grandir dans notre compréhension de qui est Jésus et grandir dans une réponse spontanée de nos cœurs. D'accord? Ce que ça veut dire, et là, je sais que je vais faire de la peine à quelques personnes parce que vous êtes comme pris dans une impasse. Mais quand même, je vais vous confronter avec ça pour qu'après ça, vous puissiez cheminer là-dedans. Quand vous entendez les enseignants dans l'Église ici répéter constamment que l'Évangile devrait être au centre de notre vie, puis j'ai passé par la même place, là, à un certain moment donné, entendre tout le temps « Jésus, Jésus, Jésus », c'est comme ça devient « Ah, oh, mais on peut-tu parler d'autre chose? » Moi, je l'ai vécu, là. Je ne sais pas si je suis le seul, là. Moi, je l'ai vécu. Oui, Marcel. Tout à fait. Ma gloire à Dieu. C'est comme ça que ça doit rester. D'accord? Marcel mentionne, il fait juste dire que si entend le prédicateur, l'enseignant parler d'autres sujets constamment, puis ne pas revenir à la croix, pour lui, on a manqué l'essentiel. Je vais juste continuer sur mon explication. Puis c'est comme ça qu'on devrait être dans notre attitude. Je vais juste terminer avec mon explication. Dans l'Évangile de Matthieu, plus les disciples avancent dans leur compréhension de qui Jésus est, plus en québécois, là, plus ils sont pâmés devant Jésus. C'est le sens, la direction que devrait prendre notre croissance spirituelle puis notre croissance comme adorateur. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Si c'est rendu plate, cette affaire-là, bien, regardez, là, si à la fin de notre étude, on réalise que Jésus est au centre de notre adoration puis que l'entendre parler de l'Évangile, c'est rendu drabe, ça se peut-tu qu'on se soit pas mal refroidi? Si selon Matthieu, grandir comme adorateur, c'est être de plus en plus pâmé devant Jésus, c'est la course que je devrais suivre. Mais si je lis l'Apocalypse, puis en lisant l'Apocalypse, je dis, « Eh boy, on va passer l'éternité là, à adorer l'agneau. » J'espère qu'il va y avoir des breaks. Des pauses. Un café, quelque chose, tu sais. Non, mais sérieusement, vous ne pensez pas comme ça quand vous entendez le prédicateur exalté en avant sur « On va adorer Jésus pour l'éternité. » Comprenez, on a de la difficulté à se projeter, mais on doit grandir dans notre appréciation de Christ. Oui. Je viens à toi. Ça se peut que je ne sois pas un chrétien. C'est ça que tu veux dire? Ah non, pas moi, c'est pas moi. Les gens qui trouvent l'Évangile drabe, ça se peut qu'ils ne soient pas chrétiens. Bien, quand je trouve l'Évangile drabe, je me demande si je suis chrétien. Puis je retourne à l'Évangile. Alors, je réponds à ta question. Ta question est très bonne. Est-ce que ça se peut que les gens qui sont blasés d'entendre l'Évangile soient finalement peut-être pas chrétiens? Il y a une partie d'entre eux, c'est clair que c'est le cas. Puis il y a une autre partie d'entre eux, c'est soit qu'ils se sont éloignés du Seigneur, ou ils n'ont pas encore assez grandi pour saisir à quel point Christ est central. Ils ont accepté son salut, mais ils ont besoin de grandir comme adorateurs. D'accord? Et c'est une de ces réponses-là. Moi, je pense qu'on peut le vivre comme chrétien. Autrement, j'ai vécu quelques conversions. Mais une partie de la réponse, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la salle, puis ils disent, « Mais veux-tu me donner un truc pratique pour avoir du fun à job cette semaine? Je suis tanné d'entendre parler de Jésus. » Et c'est parce qu'ils sont encore complètement aveugles à l'Évangile. Oui, Diane.
Moi, je crois à la Trinité.
tu crois à la Trinité, oui.
Mais est-ce que c'est normal de me sentir plus près de Christ?
OK, c'est une bonne question. Diane pose la question, est-ce que c'est normal de me sentir plus près de Christ que du Père, admettons? Bien, à la fois, oui et non. Dans le sens que Christ nous réconcilie avec le Père. Donc, je pense que spontanément, c'est ça la beauté de la révélation en Jésus, c'est toute son humanité, ça devient tangible pour nous. Mais ce que Christ fait, c'est qu'il nous réconcilie avec le Père. Alors, grandir dans mon amour pour Dieu, ma compréhension de l'Évangile, ultimement, doit m'amener au Père qui a donné son Fils. Pas seulement au Fils qui a donné sa vie. D'accord? Parce que c'est ce que Jésus fait lui-même. Jésus, à la fin de tout ça, rend toute la gloire à Dieu. Et Jésus garde toujours ce rôle de subalterne dans la Trinité, là, si je peux dire. Définitivement. Jésus est plus concret, il s'est fait homme.
Et puis, comme je t'expliquais l'autre fois, le Christ comprend mieux nos réactions, tout ça, que le Père.
OK. Je vais juste prendre ça, puis je vais commenter à partir de là, puis je vais continuer. Diane a dit, Christ comprend mieux nos réactions que le Père, parce qu'il a été humain. C'est là que tu t'en vas, là, j'imagine. Thomas dit à Jésus, « Montre-nous le Père. » Puis Jésus dit, « Mais tu es avec moi, puis tu ne le connais pas encore. Tu ne l'as pas vu, le Père? » C'est Philippe, merci. Merci. C'est pas vrai, c'est faux. C'est compréhensible, mais c'est faux de penser qu'il y a des sentiments nobles en Jésus qui ne sont pas dans le Père, qu'il y a un amour qui est en Jésus qui n'est pas dans le Père. Tout ce que Jésus fait, c'est le Père qui lui a montré, il le fait à sa suite, il est toujours en train de nous faire connaître le Père. Le bénéfice d'avoir eu l'incarnation, un des bénéfices, c'est que ça devient tangible pour nous. Mais de dire à Jésus, puis c'est comme ça qu'on le vit, je le comprends, c'est humain, mais on doit grandir dans ça, de dire à Jésus, je t'aime, mais sais-tu, je suis mal à l'aise avec ton Père. C'est comme de dire à Yannick, je t'aime, mais j'aimerais mieux pas voir ton épouse. Vous comprenez, ça reviendrait à ça. Ou tes enfants, non, sais-tu. Mais c'est plus profond que ça encore. C'est comme disait, je t'aime la face, mais j'aime pas vraiment quitter. D'accord? Jésus, c'est l'incarnation du Père. C'est l'incarnation de Dieu. C'est ça. Oui, dans la révélation, c'est l'incarnation de Dieu. Oui. Mais c'est humain, puis on doit grandir. D'accord? C'est humain. On doit grandir dans ça. Puis on a des histoires aussi derrière ça. On a souvent eu un père plus cruel qu'un frère. Fait que peut-être qu'on a besoin de grandir dans notre amour de notre père aussi. Et ça, ça fait partie de l'histoire. Je me situe dans le temps. Que de questions ce matin, c'est super. Au milieu de la page 6, on doit se rendre jusqu'à 11 ce matin. Excusez. Le prosternement des disciples dans 14.3, dans Matthieu 14.3, alors que Jésus commande aux éléments, ressemble particulièrement à l'attitude d'adoration spontanée. D'accord? Ça, j'ai mentionné. Je vais juste continuer à lire le commentaire ensuite. Matthieu 11.27 rapporte une déclaration importante. Vous allez voir le lien qu'on fait là, avec l'attitude des disciples dans la barque. Matthieu 11.27 rapporte une déclaration importante. Jésus va dire, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. » Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Cette déclaration fait de l'ensemble du ministère de Christ une révélation divine. La révélation du Fils par le Père est liée à la révélation du Père par le Fils. Restez avec moi. Toute l'histoire du Christ fut une révélation divine que les disciples finirent par comprendre avec plus ou moins de clarté et avec un sentiment de doute et de trouble. Ainsi, pour ce qui concerne les disciples, Matthieu 14, 33, puis un autre qu'on n'a pas lu, représente divers stades de leur compréhension de la révélation qui leur est faite. Et ce qui ressort de l'évangile de Matthieu, c'est que Jésus, c'est un personnage devant qui tu vas te prosterner. Puis plus tu le connais, plus tu réalises qui il est, plus tu vas le faire spontanément. D'accord? On va s'arrêter là, je crois, pour le l'hommage. Page 7. faut quand même que je vous lise ce paragraphe-là. Il est trop bon. Le premier paragraphe au haut de la page 7. L'étude de la dernière scène de l'Évangile. D'accord, on s'en va à la fin maintenant, Matthieu 28. L'étude de la dernière scène de l'Évangile révèle la réaction affective, leurs émotions, que le récit dans son ensemble cherche à produire. OK, c'est comme un point culminant. Tu arrives au terme de l'Évangile de Matthieu. Face au Christ ressuscité, la réaction appropriée est l'adoration et la confiance fondée sur une assurance. Toute autorité a été donnée à Jésus le Messie. Le narrateur désire que ses lecteurs adorent Jésus, le Seigneur ressuscité, et croient qu'il demeure avec son Église jusqu'à la fin du monde. En effet, l'ordre de mission n'est pas une fin, mais un commencement qui invite le lecteur à devenir disciple et à participer à l'évangélisation des nations. Puisque l'adoration et la confiance reposent sur la personne de Dieu, l'intrigue de l'Évangile de Matthieu vise en premier lieu le dévoilement de sa véritable identité. Quand Jésus part, ce n'est pas la fin, c'est le début. Dieu est venu parmi nous, un nouveau temple a été érigé, le temple de son corps, crucifié et ressuscité. Il nous envoie son esprit. Maintenant, le tabernacle est avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il revienne, puis on va être avec lui encore pour l'éternité. Avez-vous suivi ça? Ce n'est pas la fin parce que Jésus s'en va, c'est le début. Tant qu'il n'est pas mort, crucifié et ressuscité, le nouveau temple n'est pas érigé. D'accord? Jésus a dit « Détruisez le temple, en 3 jours je le rebâtis ». Avec sa résurrection, 3 jours plus tard, le nouveau temple est érigé, est construit, et là, on peut être avec Dieu, en communion avec lui. Non. Jonathan, ça va te l'ouvrir. On va continuer dans les notes. On va essayer de vous raccrocher. Page 8. Oui. Oui, Paul. La question de Paul, c'est si Christ, c'est le nouveau temple, parce que les Écritures ne nous disent pas que le nouveau temple, c'est l'Église, le corps de Christ. La réponse est oui, et oui. Puis on va, si je me rends jusqu'à la fin, ou sinon je te ferai un résumé là, juste avant, mais je termine avec cette idée-là, d'accord? Je sais qu'on est, j'ai introduit une nouvelle idée dans votre compréhension en disant que Jésus est le nouveau temple. Maintenant, juste pour te donner la piste, l'Église... Pourrait-elle, le corps de Christ pourrait-elle être le temple si l'Esprit de Dieu n'était pas avec nous, si l'Esprit de Christ n'était pas avec nous? Ce serait impossible. Alors, c'est de cette manière-là qu'on devient le nouveau temple, l'Église. C'est parce que Christ est retourné auprès de son Père, mais il nous a envoyé son Esprit, qui est appelé parfois l'Esprit de Christ, et son Esprit est avec nous. Donc, visiblement pour les hommes, c'est l'Église, le corps de Christ, l'habitacle de Christ sur la terre, qui est le nouveau temple. Mais c'est parce que Christ est là, puis c'est parce que Christ a accompli avant tout ce que le temple était. Oui. Et sans ça, ce serait impossible. D'accord? L'Église par elle-même, ce n'est pas un nouveau temple. Il a fallu que Jésus accomplisse tout ce que le temple accomplissait pour que l'Église puisse devenir un temple, puis que ce ne soit plus un édifice, ce soit des gens. D'accord? Page 8. Je vais juste faire un petit... je vais juste vous lire le paragraphe, mais c'est un autre indice encore qu'on a dans l'Évangile de Matthieu, que Jésus est vraiment Dieu parmi nous et qu'il vient accomplir parfaitement les fonctions que le temple accomplissait. Dans l'Évangile de Matthieu, nous ne voyons pas formellement le nouveau peuple de Dieu associé à la fonction du temple. Alors, ça va être développé plus tard. Dans Matthieu et dans Jean, c'est Jésus le nouveau temple. Il va partir, puis plus tard, les apôtres vont dire, « Oui, mais c'est l'Église, le nouveau temple. » Oui, mais c'est parce que Jésus est dans le nouveau temple. Jésus est dans l'Église. Mais il y a quand même des indices dans Matthieu. La parole bien connue de Matthieu 18:20, identifie Jésus à la présence divine et promet sa présence. D'accord, nous autres, on pense toujours à la mise en discipline, mais il y a beaucoup plus que ça dans ce texte-là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça va juste être possible par son esprit. Là. Physiquement, il s'en va. Ça va être par son esprit qu'il va être là. Alors, il y a cette idée qu'il est auprès du Père, mais il est au milieu de nous, Dieu au milieu de son peuple. C'est une idée vraiment qui est associée à Dieu. Le contexte général est celui d'un discours de Jésus sur les relations dans la communauté messianique et le contexte immédiat est celui d'un enseignement sur la façon de traiter un frère qui pèche contre un autre membre de l'Église. Les diverses instructions données s'achèvent par cette promesse. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Je ne répondrai à aucune question sur ce verset-là ce matin. En dernière analyse, le Nouveau Testament proclame que Jésus-Christ, dans l'union avec son Église, constitue le nouveau temple où Dieu demeure par l'Esprit. C'est extrêmement fort que Dieu dise, que Jésus dise, lorsque l'Église va mettre en discipline, exclure quelqu'un, ils sont, puis dans les temps de verbe, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils sont en train de confirmer quelque chose qui est déjà fait au ciel. La majorité des interprètes le voient comme ça. C'est extrêmement puissant, là. Comme autorité, là. D'accord? Dans une situation de péché où il n'y a pas de repentance. Mais je ne répondrai pas à plus de questions là-dessus. Ça, ce serait vraiment le sujet d'un autre cours. Alors, il y a vraiment l'idée que Christ accomplit tout ce que le temple accomplissait et en envoyant son esprit dans l'Église, l'Église maintenant va être le temple de Dieu. D'accord? On passe à l'Évangile de Jean. Dieu avec nous. Bon, évidemment, je présume que vous avez tous lu Jean 1. Si ce n'est pas fait, relisez-le cette semaine. Il faut que vous le lisiez. C'est unique, d'accord? Lorsqu'on étudie les évangiles, on étudie les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc. Puis ensuite, on étudie l'évangile de Jean. Et ils ne vont pas ensemble. Ils ont des événements qui sont similaires, mais Jean est unique dans sa manière d'aborder toute sa compréhension de Jésus. Le début de l'évangile de Jean est comparable dans sa révélation de la personne de Christ, donne le ton à l'ensemble du livre. C'est pour ça que je vous dis, c'est une introduction qui est comme... L'introduction de l'évangile de Matthieu, c'était la généalogie. Et ils nous positionnent Jésus dans la généalogie, puis ils nous disent, vous avez Abraham, David, Jésus. Comprenez le lien de ces personnages-là. Ça, c'est comme l'introduction, en quelque sorte, à l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Jean... Ouf, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là, on s'en va complètement ailleurs. Dans tout de suite, Jésus est révélé dans toute sa gloire, d'accord? La présence de Dieu ne dépendra plus du temple, puisque Dieu s'est incarné dans la personne de son Fils. Dieu est présent par son Fils. Il s'agit du Dieu de la création. Au commencement était la parole était avec Dieu. Hein, tout ce qui a été fait par la parole. Donc, il s'agit du Dieu de la création. Il est venu vivre parmi nous, tout comme l'Éternel vivait parmi son peuple par le tabernacle. En Jésus, la communauté des croyants contemple la gloire de Dieu, celle que l'Ancien Testament associait au mont Sinaï, au tabernacle, puis au temple, et qui devait être manifestée à tous les hommes dans l'ère nouvelle. Juste la dernière phrase. « Cependant, ce n'est pas seulement sa gloire, son nom ou sa Shekina. » Vous vous rappelez lorsque je parlais de la dédicace du temple, la gloire de Dieu qui est descendue, le terme qui est là, c'est la Shekina. Il dit « Ce n'est pas seulement la Shekina, mais Dieu lui-même, Dieu la parole qui demeure au milieu de son peuple. » Là, vous avez une phrase de philosophe qui est ici, mais si vous pouvez la saisir, c'est vraiment beau. « La tension qui existe depuis des siècles entre la transcendance et l'immanence de Dieu a trouvé sa solution en Jésus-Christ. Avant que Dieu s'incarne dans Dieu le Fils, vous avez un être qui est comme intouchable, qui est plus grand que nature, qui occupe tout l'univers, il est omniprésent, il est omniscient, il connaît toutes choses, il est partout à la fois. Cet être-là est tellement différent de nous, tellement inaccessible, comment est-ce qu'il peut devenir concret? Parce qu'à quelques moments dans l'Ancien Testament, il va parler. Donc, il devient concret. Quelle va être la solution? Ça va être Jésus-Christ, la solution. Vous avez l'être infini qui se réconcilie avec des êtres finis comme nous à travers la personne de son Fils. D'accord? Alors, de dire après ça qu'il est juste un peu plus qu'un ange, ou comme l'islam va le dire, de dire que Jésus, c'est juste le plus grand des prophètes, mais ce serait un blasphème de dire qu'il est Dieu, parce que Dieu ne peut pas être crucifié. D'accord? Ça, c'est l'islam. C'est le plus grand des prophètes, un plus grand prophète que Mahomet, selon l'islam. Mais jamais Dieu incarné, Dieu ne pourrait pas être crucifié. Puis Dieu ne peut pas, Dieu est autre. Justement, les musulmans n'arrivent pas à concevoir que l'être immanent pourrait s'incarner puis vivre des émotions tellement humaines. Lorsque je comprends que c'est possible, je comprends au contraire que Dieu n'est pas venu vivre des émotions humaines en devenant Jésus. C'est nous qui ressemblons à Dieu lorsqu'on vit des émotions vraiment humaines et belles. D'accord? Ce n'est pas le contraire. C'est nous qui ressemblons à Dieu à ce moment-là. Page 9, haut de la page 9. Alors, dans l'Évangile de Jean, la purification du temple est au tout début de l'Évangile de Jean. Il y a un ton qui est donné à cet endroit-là. On n'est pas sûr lorsqu'on essaie de comprendre, est-ce qu'il y a eu deux purifications? J'ai tendance à croire que oui. Il y a eu deux purifications. Jésus est intervenu deux fois. Ça, c'est tout un autre sujet. Deuxième paragraphe. Dès le début de son évangile, l'apôtre Jean nous dit que Jésus révèle sa personne et son autorité en commençant par purifier le temple avec toute l'autorité qui lui revient. Et dans ce passage, Jésus annonce, dans ce même passage, Jésus annonce l'édification d'un nouveau temple. Les disciples ne saisiront la portée des paroles de Jésus qu'après sa résurrection. Il n'en demeure pas moins que Jésus leur dit « Détruisez ce temple. » Ainsi, dans la pensée de Jean, un nouveau temple va être érigé. D'accord? Ils ne le saisissent pas à ce moment-là. Ils ne comprennent pas de quoi il parle. Mais Jésus n'est pas en train de dire, c'est clair dans Jean, « Détruisez ce temple, je vais en construire un autre, ça va être l'Église. » Non, c'est son corps. Et dans le texte, un impératif qui est utilisé. C'est comme si Jésus les nargue et leur dit « Détruisez-le, vous allez voir, je vais bâtir un nouveau temple en trois jours. » Pourquoi il ne l'a pas rendu plus clair? Je ne sais pas, j'attends beaucoup de cappuccino avec Dieu. J'ai encore besoin de beaucoup, beaucoup d'explications moi-même. Une réponse intelligente, hein? Je vais aller tout de suite au bas de la page avec ma phrase qui est soulignée. Dans l'Évangile de Jean, le temple de l'ère nouvelle n'est pas l'Église, mais le Fils de Dieu crucifié et ressuscité. Ainsi comme nous pouvons le voir, l'imagerie du temple dans le Nouveau Testament est plus riche qu'il n'y paraît lors d'une première lecture. Nous ne pouvons la résumer uniquement à l'Église ou au peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Le temple de la Nouvelle Alliance est à la fois Christ lui-même, en qui s'accomplit parfaitement le temple de l'Ancien Testament et l'Église habitée par l'Esprit de Christ, nouvelle maison de Dieu sur terre jusqu'à son retour, voire éternellement. Vous irez voir pour le fun Apocalypse 21, puis essayez de démêler dans Apocalypse 21, c'est quoi la Jérusalem céleste, c'est quoi l'Église, c'est quoi le temple, où est Christ. Vous allez voir, c'est mêlant en titi. Et tu te rends compte qu'il y a vraiment une unité entre l'Église, Christ, à ce moment-là, d'une manière extraordinaire. Et donc, tu vois qu'il va y avoir cette unification qu'il va y avoir entre Christ et l'Église lorsque tu t'en vas lire Apocalypse 21. Tu le lis, puis là, tu le relis, puis là, tu dis, « Wow, il me semble que ça commence à se mélanger. L'épouse de Christ, c'est la ville. » Puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Page 10. OK. Dans Jean 4, lorsque Jésus va rencontrer la dame samaritaine, il y a une annonce importante qui est faite à ce moment-là. Jésus va annoncer que le temple physique ne sera plus vraiment utile. D'accord? On ne le réalise pas, on ne lit pas ça lorsqu'on lit le passage, mais en définitive, c'est ça qu'il va dire. Lorsqu'il va dire à cette dame-là, parce qu'elle entreprend une discussion, lorsqu'elle réalise qu'elle a probablement un prophète devant elle, puis quelqu'un qui peut élucider des grandes questions, là, elle va lui dire, « Oui, mais qui a raison, nous qui adorons sur la montagne sainte ou vous qui adorez au temple? Qui a raison? » Puis là, il dit, « Bien, vous êtes dans l'erreur, ça c'est sûr. » Puis les Juifs n'ont pas tout compris encore parce qu'il restait des choses à s'accomplir. Parce qu'il dit, « Il y a un temps qui s'en vient où le temple ne sera pas nécessaire pour adorer. » C'est important, là, on est dans Jean 4. Oui.
Jésus, à sa résurrection, c'est devenu le temple.
Non, j'ai dit qu'il ne sera plus utile. Physique. Physique. Oui. Le temple, la bâtisse, lorsqu'il a la discussion avec la Samaritaine, c'est important parce qu'on est dans Jean 4. Puis Jésus leur dit, écoutez, vous êtes dans l'erreur en disant que c'est sur la montagne sainte, mais en même temps, les Juifs n'ont pas tout compris encore parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir. Il y a un temps qui s'en vient où les adorateurs adoreront ni là, ni là, ni là, mais en esprit et en vérité. Ça dit quelque chose par rapport au bâtiment qui est à Jérusalem, ça. D'accord? Je suis dans Jean 4, puis Jésus est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ce bâtiment-là. Ça ne sera plus une question de lieu qui va être importante. Mais Jésus est en train d'annoncer que le rôle du temple va être accompli. Le temple ne sera plus nécessaire. Je parle du temple physique. On est dans Jean 4, on est au début de l'Évangile. D'accord? Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout clair, puis Jésus est mystérieux, je suis d'accord, mais c'est quand même là, c'est dans le texte. Est-ce que les gens devaient se rendre au temple pour prier? Non, les gens priaient partout, ça c'est clair. Et en général, même dans les maisons, ils avaient un endroit où ils allaient prier, ça c'est clair aussi. Mais l'endroit où tu pouvais aller offrir tes sacrifices pour te mettre en règle avec Dieu, c'était au temple que tu allais le faire, selon la loi de l'Ancien Testament. Tu pouvais prier ailleurs. Tu pouvais prier spécialement là parce que c'était un contexte où tu avais pu offrir un sacrifice pour te réconcilier avec Dieu. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis là, il y a toute la... Les pharisiens priaient sur les coins des rues. En tout cas, c'est tout un sujet au niveau du développement historique. Là, lorsqu'on arrive au temps de Jésus, les synagogues existent. C'est comme une nouvelle institution qui s'est développée pendant la période de la déportation. D'accord? Ils sont chassés de Jérusalem, puis là, ils veulent étudier la parole de Dieu, puis là, les synagogues vont apparaître, puis ça va transformer un petit peu le culte. Fait que lorsqu'on arrive au temps de Jésus, tu as le temple, puis tu as des synagogues. Fait que, en tout cas, lorsqu'il n'y avait pas de synagogue, ils avaient des lieux de prière. Lorsqu'il y avait des synagogues, ils allaient à la synagogue pour aller prier. Pardon? Oui, c'est ça. En tout cas, ça, c'est tout un autre sujet. Si vous voulez lire là-dessus, vous avez ça là-dedans. Mais comment Jésus se comporte par rapport aux synagogues, c'est vraiment fascinant. Là, parce que les synagogues ne sont pas prescrites dans l'Ancien Testament. Fait, où elles sont dans l'histoire, c'est vraiment un fruit de l'histoire. Là. C'est pendant la déportation, les Juifs sont mal pris. Clique les synagogues. Puis après, quand on arrive dans le Nouveau Testament, l'Église va ressembler beaucoup à ce que la synagogue fait. En tout cas, c'est un autre sujet, c'est sur l'ecclésiologie. Au milieu de Jean 4, 23, au milieu de ma page 10 ou un peu plus haut, Jean 4, 23, « Mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jésus lui annonce clairement que la question même du lieu n'a plus d'importance, qu'elle a eu dans, la même importance qu'elle a eue dans le passé, car une heure nouvelle vient d'arriver. N'est-il pas lui celui qui donne l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle? Et donc, ce qui va ressortir à travers l'Évangile de Jean, c'est que aller vers Dieu, à partir du moment où Jésus vient, c'est aller vers Jésus. Le lieu où est Dieu, c'est là où est Jésus, c'est aller rencontrer Jésus. D'accord? Puis lorsqu'il va partir, bien, ça devient spirituel. Ce n'est pas un lieu physique. Mais c'est pour ça qu'on utilise toujours un langage comme celui que Marcel a dit tantôt, « Je vais au pied de la croix. » Je ne suis jamais allé, moi. Pourtant, j'y vais tous les jours. D'accord? Parce qu'on ne la trouve plus, là, la croix. Mais j'y vais tous les jours au pied de la croix. D'accord? Alors, mais pourquoi est-ce que je vais au pied de la croix? Parce que je veux aller à Dieu. Je veux aller à Dieu, je veux à Jésus pour aller à Dieu. C'est ça qui se passe ici. C'est ça qu'il est en train d'annoncer. Ainsi, avec la venue de Jésus, il n'est plus question de la montagne sainte, ni de la ville sainte, mais d'adoration en esprit et en vérité. Une ère nouvelle pour accéder à Dieu vient de s'ouvrir. Là, je vais juste vous lire un paragraphe qui nous aide à voir un peu qu'est-ce que Jésus a pu vouloir dire avec en esprit et en vérité. Jésus est la vérité dans Jean 14, 6. Il révèle le caractère de Dieu et ses desseins, ses projets. Les vrais adorateurs sont donc en communion avec Dieu par Jésus-Christ. L'heure qui vient est déjà présente, car Jésus affirme donner l'eau vive. La métaphore combine les deux idées. Il est celui qui donne la révélation finale et qui donne l'esprit de vie. Le Père recherche des personnes qui voudront entrer en communion avec lui de cette manière, car cette adoration s'accorde avec sa propre nature. En Jean 4, 23, 24, Jésus n'est lui-même ni le centre ni l'objet de l'adoration de toutes les nations. Excusez-moi. Il faudrait juste que j'aie corrigé ça ici. Prochain paragraphe. En effet, le Christ glorifié est désormais le lieu où Dieu doit être reconnu et honoré. C'est lui et non le temple rétabli de Jérusalem, ni aucune autre montagne sacrée qui devient le lieu du pèlerinage eschatologique de toutes les nations. Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, par exemple, Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ils doivent les conduire où, ces disciples-là? À Jérusalem? À Jésus. C'est tout ce qu'ils vont faire. Oui, mais il n'est plus là. C'est ça. Tu dois croire en lui. Puis tu vas entrer dans le lieu saint. Tu vas entrer dans la présence de Dieu en croyant en lui. Je vais vous lire la conclusion. Je l'ai écrit un peu plus dans mes mots. Là, fait que ça devrait être un petit peu plus simple. Des fois, le livre est un peu technique. Puis on va avoir réussi à couvrir la leçon. Comme nous avons pu le voir, les évangiles selon Matthieu et Jean nous communiquent que Jésus est celui qui vient remplir parfaitement les fonctions qui relevaient du temple et du tabernacle dans l'Ancien Testament. En effet, c'est en Jésus-Christ que le ciel et la terre se rencontrent. C'est en lui que l'homme trouve la possibilité de se réconcilier avec un Dieu saint. L'espérance prophétique d'un nouveau temple trouve sa réalisation en Jésus-Christ. Aux yeux de Jésus. D'accord, là, ça c'est important, là, parce que je reviens sur la question de l'Église, c'est le temple, Jésus, c'est le temple. Aux yeux de Jésus, toujours selon ces deux évangiles, ce n'est pas premièrement l'Église qui deviendra le nouveau temple, mais c'est son œuvre et sa personne. Ce n'est qu'après son départ et seulement parce qu'il habite par son esprit au milieu de son Église que la communauté des croyants pourra être appelée une maison spirituelle. L'Église de Jésus-Christ devient le temple parce que Christ a accompli parfaitement tout ce que le temple annonçait et qu'il habite au milieu de son peuple. Et la promesse qu'il nous a donnée, c'est qu'il ne quitterait jamais ce peuple-là. D'accord? C'est ce qu'il avait promis dans l'Ancien Testament avec une condition, si vous êtes fidèle. D'accord? Et là, il donne une assurance dans le Nouveau Testament que lui va être fidèle, qu'il va continuer. En conséquence de cette réalité, il est indispensable que la prédication et l'enseignement chrétien aient pour centre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les incroyants ne deviendront de véritables adorateurs qu'en le reconnaissant tel qu'il est vraiment, en l'acceptant comme sauveur et seigneur, et en recevant la vie éternelle qu'il leur offre. Dieu réconcilie les hommes avec lui-même lorsqu'ils parviennent à la connaissance de son Fils par la proclamation de l'Évangile et qu'ils se soumettent à lui par l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Ça devrait orienter notre adoration. Ça devrait orienter nos cultes, nos célébrations, la louange qu'on fait, parce que lorsqu'un non-croyant entre au milieu de nous, lorsque quelqu'un qui est au milieu de nous est blasé par l'Évangile, comment est-ce qu'il va pouvoir devenir un adorateur en esprit et en vérité? C'est lorsqu'il va recevoir une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il va se convertir et il va devenir automatiquement un adorateur en esprit et en vérité, en saisissant l'Évangile. Alors, l'Évangile doit vraiment être au centre de notre adoration. D'accord? La semaine prochaine, ce qu'on va voir ensemble, c'est Jésus et l'Alliance. Puis là, on va voir ces thèmes-là qui reviennent dans le Nouveau Testament. J'espère que ce n'était pas trop technique. Vous avez posé pas mal de questions. Ça va de l'air intéressant, là, mais j'espère que ce n'était pas trop technique. Bonne semaine. La semaine prochaine, on pense à Jésus et l'Alliance. Ça fait plaisir.